dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne, qui comprend les traditions initiatiques du passé et les enseignements ésotériques modernes. Durant une heure, nous allons vous présenter quelques mots-clés de ces traditions et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, ouvrons notre dictionnaire et là, je suis tombé sur la lettre K, un mot qui commence par cette lettre et un mot pas très courant, je crois qu'on peut le lire Kumara. Kumara.
Oui, ce sont des termes que l'on va trouver dans la mythologie, dans l'hindouisme, et qui ont termes repris dans les enseignements de Madame Blavatsky, d'Alice Bailey ou de Benjamin Creme.
Donc des personnes en Occident qui ont occidentalisé, enfin traduit pour l'Occident ces enseignements de l'Orient.
Voilà. Et donc Kumara, ça vient d'un mot donc sanskrit qui veut dire vierge. Hein, les Kumaras, des sortes d'adolescents vierges, ils sont représentés comme des immortels, des grands yogis. Dans la tradition hindoue, on dit qu'ils sont nés du mental de Brahma. Alors Brahma représenterait ici notre dieu, notre logos planétaire. Et les Kumaras qui sortent de sa pensée sont en quelque sorte ses assistants. Ce sont ceux qui sont comme un peu les sept esprits devant le trône de Dieu. Hein. Ils représenteraient ici les sept grands êtres qui représentent pour nous le dieu de la planète. Et au niveau de la planète, ils représenteraient le règne le plus évolué. C'est un petit peu les présidents, directeurs généraux en quelque sorte. Hein.
Alors attends David, je vais essayer de reformuler ce que tu as dit. C'est assez complexe, il y a plein de notions dans tout ça. Donc il y a un grand être qu'on appelle le logos planétaire et qui est un être cosmique, on va dire ça comme ça, qui s'incarne dans ce qu'on appelle nous la planète Terre. Cet être-là, ce logos, par la force de son mental, si j'ai bien compris...
C'est une image en fait, hein. C'est que son mental, son intelligence collectivement est représentée par ces sept assistants, en quelque sorte, ces sept grands êtres qu'on appelle Kumara.
Mm-hmm. Donc il a créé ces Kumara.
C'est pas qu'il les a créés vraiment, ça c'est la mythologie indienne qui, pour parler de cette intelligence, c'est un petit peu, c'est la production, c'est la collectivité, la somme de son intelligence est représentée par ces grands êtres, qui sont aussi des êtres très évolués.
C'est constitutif de lui-même, en fait, du logos, on pourrait dire.
C'est plus vraiment des assistants. Il faut plus les voir comme ça que comme des créations du logos. Hein. C'est ceux qui vont permettre que son intelligence, ses plans, son dessein, sa volonté puissent s'exprimer en lien... Alors, ils sont sept parce qu'ils sont reliés à tous les septénaires qui vont exister sur la planète. Les sept règnes, si on veut en trouver sept... donc les sept rayons, les sept types d'espèces, les sept types de races humaines, etc. Mmh. Voilà, derrière il y a toujours l'effet, l'impulsion d'un Kumara. Mmh.
C'est ça, donc tu as dit que ces Kumaras formaient en quelque sorte un règne de la nature, le septième règne de la nature.
Alors du point de vue de la Terre, ça serait le plus élevé, et on dit qu'ils sont reliés à ce qu'on appelle Shambhala. C'est aussi un terme que l'on trouve dans le bouddhisme.
Donc Shambhala serait un lieu géographique.
C'est un lieu géographique et un règne à la fois.
Mm-hmm. Un lieu géographique qui se trouve au niveau du désert de Gobi, dit-on, hein, en Chine, mais qui n'est pas visible parce qu'il est constitué de matière qu'on appelle la matière éthérique. Hein.
Voilà, ces êtres-là seraient dans des corps subtils, hein, des corps éthériques. Ils existeraient depuis la création de cette planète. Et en fait, donc ils représentent, c'est un petit peu ceux qui sont à l'origine du culte des ancêtres. Hein. C'est les hommes primordiaux, en quelque sorte. C'est les premiers êtres. C'est les sortes de dieux de cette planète. Et donc ces êtres-là assistent, représentent pour nous le dieu de cette planète. Il y en a un qui est principal. Alors on dit qu'ils sont 7, parfois on dit qu'ils sont 21 ou même 24, ça fait allusion à, je crois que c'est dans l'Apocalypse, aux 24 vieillards de l'Apocalypse, hein, des sortes de sages, des représentants de l'Ancien des Jours, hein, ou de Jéhovah, de celui qu'on peut associer au dieu de la planète. Hein. Donc ces sortes de grands sages, c'est un peu comme une sorte de conseil des sages. Hein. Donc s'ils sont 7, on dit souvent que le plus important, celui qui est à la tête de ce groupe, c'est Sanat Kumara.
Mmh. Donc c'est son nom, enfin c'est
voilà,
c'est le désigné.
Voilà, ils ont tous Kumara comme nom. Ils s'appellent, ils ont Sananda Kumara, Sanatjata Kumara, etc. Ils ont fait plusieurs noms comme ça. Et Sanat Kumara, dans le vocable hindou, hein, Sanat Kumara, c'est celui qui c'est le Kumara. Sur les sept, on dit que c'est le quatrième et il représenterait, ça serait comme le Kumara de l'humanité, en quelque sorte. Celui qui va être relié au maître de sagesse, qui eux vont travailler en lien avec l'humanité. Donc c'est le Kumara le plus important pour les maîtres de sagesse qui travaillent avec l'humanité et pour l'humanité elle-même. Alors, Sanat, ça veut dire ancien.
Et donc ces Kumaras sont à Shambhala, donc ce lieu donc qui existe en matière éthérique, et il représente, et donc il travaille avec les règnes de la nature inférieure. Donc il travaille avec les maîtres de sagesse qui sont le cinquième règne.
Voilà, et il travaille aussi à travers les différents règnes, et donc certains sont plus en affinité avec un règne, mais à chaque fois les six autres agissent parce que les sept rayons agissent, hein, à travers chaque règne, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui va plus représenter un règne qu'un autre, et Sanat Kumara donc représenterait symboliquement le quatrième règne, et on dit qu'il représente la planète elle-même, en quelque sorte, et celui qui est le plus proche du dieu de la planète, parce que notre planète a une grande affinité avec le règne humain, on le voit, hein, le règne humain est central sur notre planète, il est vraiment important. Et donc Sanat Kumara et le dieu même de notre planète vraiment représenterait l'énergie propre de notre planète. Alors on dit aussi que ces Kumaras, pour comprendre à quoi ils servent aussi, c'est que ils servent en fait à recevoir les énergies qui viennent des différentes planètes. Hein ? Chaque planète a une énergie qui lui est propre et la Terre s'en nourrit, et cette énergie est reçue par la tête en fait, hein, l'intelligence première de cette planète. Et donc chaque Kumara serait relié par son rayon, par son énergie, à une planète autre dans le système solaire. Ça serait un petit peu une sorte de point d'impact, de point focal de cette énergie. Et les énergies arrivent dans ce règne qu'on appelle donc Shambhala, dans le bouddhisme ésotérique tibétain. Il y a énormément de légendes autour de Shambhala. On dit que c'était une civilisation très ancienne, c'est une cité sainte, on parle d'île blanche, il y a plusieurs termes autour de Shambhala. Et donc ces êtres-là reçoivent ces différents impacts planétaires et ils transmettent ces énergies aux maîtres de sagesse, qui aussi sont groupés par sept essentiellement. Et puis après, ces énergies sont diffusées au sein de l'humanité. Donc voilà ce qu'il en est pour ces Kumaras, donc des sortes de grands yogis, d'adolescents. On dit adolescents parce qu'ils représentent une forme d'immortalité, hein, ces êtres primordiaux. Et ce sont les plus hautes... Les êtres les plus évolués qu'on puisse concevoir sur cette planète.
Est-ce qu'il y a une correspondance dans la chrétienté avec cette notion-là ?
Pour moi, on pourrait associer, les Kumaras aux archanges. Hein ? Raphaël, Michael, Gabriel, etc. On en cite 7 d'ailleurs. Hein ? 7 majeurs. On en cite parfois 10 parce qu'il y en a 3 qui sont transcendantaux et puis il y en a 7 autres. Hein. Mais oui, ils représenteraient les archanges et Jéhovah serait en quelque sorte le dieu de la planète, si on voulait associer ça comme cela. Ça serait
donc
assez correct.
Jéhovah serait en fait Sanat Kumara dans une autre...
Non, ça serait plutôt le dieu de la planète.
Ah, le logo, c'est carrément.
Voilà,
le logo,
Jéhovah serait Brahma, le dieu de la planète. Et donc de Brahma sortent ces 7 esprits symboliquement, et ben c'est pareil de Jéhovah, de Dieu émane ces sept archanges qui sont les 7 esprits devant le trône du logos planétaire, en fait, en quelque sorte. Donc il y a des équivalents dans toutes les religions, hein. Un Dieu qui émane cette énergie, on peut voir qu'on peut le comprendre d'un point de vue universel, du point de vue du cosmos, ou on peut l'appliquer à la Terre. Hein, c'est des modèles archétypaux pardon, qui peuvent être produits à différentes échelles. Et là, au niveau de l'échelle de la planète, ça fonctionne tout à fait. Kumara égale archange, ou égale, dans le bouddhisme, on parle de Dhyani Bouddha. C'est des bouddhas qui sont contemplatifs, qui sont au-dessus des bodhisattvas, qui sont les maîtres, qui eux-mêmes sont au-dessus, les bodhisattvas sont au-dessus des Manushi Bouddha, c'est-à-dire des bouddhas incarnés, des bouddhas humains, hein, des bouddhas historiques. Hein, il y aurait donc les bouddhas historiques, les bodhisattvas, les grands sauveurs en fait de l'humanité, et au-dessus d'eux, un niveau supérieur, les Dhyani Bouddha, donc ça représente les Kumara ou alors les archanges. C'est la même idée, hein. Archange, ange, homme, on aurait pareil l'idée de donc Bouddha humain, Bouddha sauveur et Bouddha transcendantaux contemplatifs.
Je tourne les pages de notre dictionnaire et David, alors là, je trouve un mot qui commence par B et qui a beaucoup de pages justement, c'est le mot Bouddha. Le Bouddha. Alors il semble qu'il y ait plusieurs aspects dans cette notion de Bouddha. On peut parler déjà du Bouddha historique, celui qui a vécu il y a à peu près 2600 ans.
Oui, la tradition du sud, donc le bouddhisme du sud le fait naître en 621. Avant JC.
Oui, donc il n'y a pas accord tout à fait hein, sur cette date. Hein, mais...
Alors Bouddha, on peut dire quand même l'étymologie, ça vient d'une racine Bouddh, le verbe Bouddh qui veut dire éveillé. Donc le Bouddha, c'est celui qui est éveillé.
Mmh. Alors on fait le rapprochement entre le Bouddha et le prince Gautama. Donc c'était un prince qui, à l'âge de 29 ans, on connaît l'histoire, hein, a quitté le palais où il avait vécu jusque-là, il a quitté la ville où il était, il est allé dans la forêt, et puis il s'est mis à enseigner au bout d'un certain temps. Et voilà, est-ce qu'il y a un lien donc entre ce prince Gautama et le Bouddha? En quoi le prince Gautama est-il le Bouddha?
Alors... De la même façon que dans la gnose chrétienne, on fait une différence entre le Christ et Jésus, on peut en faire une entre le Bouddha proprement dit et le prince Gautama, Siddhartha, Shakyamuni, peu importe le terme qu'on lui donne, qui est donc ce prince qui a été adombré, qui a été le véhicule de ce maître qu'on va donc appeler nous ici le Bouddha pour s'y retrouver. Hein.
Mmh, donc si je reprends ça, le prince Gautama est un être humain.
Très évolué. Hein.
Très évolué en termes de conscience, hein, probablement, ce qu'on appelle un initié généralement, se retrouve en lien avec un maître de sagesse qu'on appelle le Bouddha.
Voilà. Mm-hmm. Et ce maître de sagesse, d'ailleurs, on dit dans le bouddhisme que le Bouddha lui-même avait déjà atteint l'illumination dans d'autres cycles. Hein. Donc ça fait référence à ce moment-là, ici, au Bouddha en tant que maître. Et le prince, lui, va en fait obtenir lui-même l'illumination. Il va devenir un maître lui-même dans cette vie-là, hein, dans la vie en tant que Bouddha historique. Mais lui, le Bouddha qui travaille à travers lui, l'est déjà depuis longtemps. Et dans l'ésotérisme, on dit même que c'était l'instructeur mondial de l'époque, c'est-à-dire on est dans l'ère, à la fin de l'ère du bélier.
Donc l'instructeur mondial,
le maître des maîtres.
Le maître des maîtres, le leader de...
du groupe des maîtres.
D'accord.
Et on dit même que ce Bouddha, il est venu en tant que Bouddha historique, mais il est venu trois fois avant. Donc on dit que c'est le quatrième Bouddha, le Bouddha Gautama, celui qui est connu. Il y en a eu trois autres avant. Alors parfois, dans l'ésotérisme, on associe par exemple le troisième Bouddha à Mitra. Et il a bien sûr un nom sanskrit différent hein, dans la tradition bouddhiste, mais on peut vraiment l'associer à certains instructeurs. Et en tout cas, l'idée que ce Bouddha et ce maître a déjà travaillé à travers trois autres disciples avant, c'est ça l'idée. Et que Gautama,
c'était donc Siddhartha, le quatrième alors.
C'est donc le quatrième proprement dit. Hein. Shakyamuni, peu importe le terme qu'on lui donne, c'est le quatrième. Et on attend un cinquième qui sera plus le Bouddha tel qu'on connaît en tant que maître, mais un nouveau Bouddha qui est le Bouddha Maitreya, dont on parlera plus tard hein, dans le dictionnaire. Donc voilà pour l'aspect historique en fait. Hein.
Alors on dit aussi que ce Bouddha, comment veux-tu l'appeler alors, Gautama ou...
Ça dépend, tu parles du... Moi en général je l'appelle Gautama pour dire Bouddha en tant que maître et je dis Shakyamuni ou Siddhartha pour dire le prince.
D'accord. Donc ce Bouddha, on dit que c'était... on dit que chaque... lorsqu'on parle de la révélation, hein, ce processus d'enseignement progressif de l'humanité au fil des âges par des entités, disons, supérieures, ce processus de révélation est progressif, continu mais progressif, et il y a des nouvelles facettes de la vérité, avec un grand V, on pourrait dire, qui est révélée à l'humanité au fur et à mesure de ce processus, et que ce Bouddha aurait apporté la dimension sagesse.
Oui, le Bouddha, par son étymologie même, hein, racine Bouddha éveillé, est lié à l'aspect sagesse. Hein, alors qu'en Occident, le Christ serait relié à l'aspect complémentaire de la sagesse, qui est l'aspect amour. Alors ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas de sagesse et que la sagesse n'a pas de compassion. On parle beaucoup de la compassion du Bouddha. Mais ce sont deux polarités, en quelque sorte, d'un même rayon, d'une même énergie, hein, qu'on appelle le deuxième rayon, le rayon d'amour-sagesse. Donc avec une part christique en Occident, une part bouddhique en Orient, essentiellement. Donc, c'est sûr que l'enseignement du Bouddha met beaucoup l'accent sur le discernement, le détachement, la sagesse. Et l'enseignement christique met beaucoup l'accent sur le service à l'autre, sur l'amour de Dieu envers son prochain, etc. Donc, mais ils sont complémentaires. Il y a de la sagesse, bien sûr, dans l'enseignement du Christ. Et comme je disais, il y a de la compassion pour tous les êtres dans l'enseignement du Bouddha.
Alors on dit ici que ce Bouddha serait un intermédiaire entre un règne encore très supérieur de la nature qui est le règne des Kumaras, qui est donc Shambhala, qui est le lieu où se tiennent les Kumaras.
Ou alors Dhyani Bouddha, si on veut garder le terme bouddhiste. Hein. Donc il serait dans l'ésotérisme, en effet, donc le Bouddha, celui qui était déjà un maître et qui continuait lui-même son évolution après l'histoire du prince, hein. Après le Bouddha historique, lui-même servirait d'intermédiaire entre le monde de Shambhala, donc le monde des Kumaras, des archanges, Dhyani Bouddha, des Bouddhas transcendantaux, et celui des Bodhisattvas ou des maîtres de sagesse, à la tête desquels on trouve le Bodhisattva Maitreya, en fait, le grand Bodhisattva Maitreya, hein, le futur Bouddha attendu, qui selon Benjamin Creme serait déjà présent dans le monde. Donc ce maître des maîtres... a comme grand frère le Bouddha, on va l'appeler Gautama, hein, qui sert d'intermédiaire donc entre Shambhala et la hiérarchie. D'accord ? Entre la tête de la planète et le cœur de la planète, si on voulait faire l'équivalence. Et l'humanité serait un peu la gorge, c'est-à-dire l'aspect mental, création de la planète. D'accord ? Donc tête, cœur, gorge, ça serait Shambhala, hiérarchie, humanité. Et entre Shambhala et la hiérarchie, c'est-à-dire entre les grands Kumaras ou les grands Dhyani Bouddha et les maîtres de sagesse, Bouddha sert d'intermédiaire, le Bouddha Gautama, celui qui a travaillé à travers le prince Siddhartha il y a 2600 ans. Donc l'évolution des êtres continue. Le Bouddha était l'ancien instructeur mondial, l'ancien maître des maîtres dans l'ère du bélier, et on dit que celui qu'on appelle Maitreya, qui est en fait l'équivalent du Christ, hein, en Occident, le Christ qui a travaillé lui-même à travers Jésus, hein, si on veut faire la distinction. Donc le Christ Maitreya, si on veut, Et lui, l'instructeur mondial, le maître des maîtres depuis deux ères zodiacales, en fait. Enfin, depuis l'ère des poissons, les 2000 ans écoulés, et durant cette nouvelle ère dans laquelle on se trouve.
Le Bouddha Gautama avait prédit qu'après lui viendrait un autre Bouddha. Hein.
Tout à fait. Il a dit que viendrait un nouveau Bouddha, Maitreya, qui est l'instructeur des hommes et des devas, des dieux ou des anges, peu importe le terme qu'on leur donne, qui referait retourner la roue de la loi, la roue du dharma, hein, qui enseignerait de nouveau la sagesse. Selon différentes traditions, il est attendu à la fin de l'âge sombre. Mais on pourra reparler un petit peu plus tard de Maitreya. Donc les Bouddhas, on peut dire que on peut voir trois types de Bouddhas dans le bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire la deuxième forme de bouddhisme qui est plus présent dans le nord.
De l'Inde.
Alors,
le Népal.
Voilà, Népal, Tibet, Chine, Corée, Japon, c'est le bouddhisme Mahayana. Contrairement au bouddhisme Hinayana, qu'on dit petit véhicule, qui est au Sri Lanka et dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Dans le bouddhisme du Sud, on reconnaît des anciens Bouddhas, on reconnaît Shakyamuni, puis après Maitreya. Mais dans le bouddhisme Mahayana, on a développé un bouddhisme qui est plus spéculatif, plus métaphysique, et on a dit que le Bouddha avait trois corps. Et en fait, on parle même d'un Adi-Bouddha, un Bouddha primordial, qui serait l'équivalent de l'aspect de Dieu chez nous, l'aspect transcendantal, hein, un Adi-Bouddha, qui aurait trois corps. Un corps complètement transcendantal que l'on pourrait associer donc à Shambhala, où se trouvent les Dhyani-Bouddhas, le corps de la loi, on dit. Un corps de félicité, on dit Sambhogakaya, qui serait relié au monde des bodhisattvas de la hiérarchie. Et un corps, on dit Nirmanakaya, c'est un corps de création, de manifestation, où on trouverait les Bouddhas humains, les Bouddhas historiques. Donc on voit que dans l'enseignement du bouddhisme ésotérique, se trouve l'enseignement ésotérique tout court, hein, que l'on trouve dans toutes les formes ésotériques des religions, on trouve l'enseignement ésotérique, c'est-à-dire cette tripartition, cette forme de triple constitution majeure au niveau de la planète, hein, Shambhala, la hiérarchie, l'humanité.
Un mot qui donne lieu à de nombreux développements et volumineux développements dans notre dictionnaire de la sagesse ancienne, c'est le mot Christ. Bien sûr, le Christ. Alors là, je vois que ça vient de Christos.
Traduction grecque du mot...
Messie.
Voilà, Machia, Messie.
Et un Messie, c'est un envoyé, un intermédiaire, un envoyé de Dieu.
Étymologiquement, c'est celui qui est oint. Parce que dans la pratique juive et aussi grecque et même antique, on couvre ceux qui étaient initiés, qui étaient unis au Seigneur, justement, on les oignait, enfin, on les
on leur mettait de l'huile,
une onction d'huile. Donc on faisait ça pour des grands prophètes dans le judaïsme et puis les rois, des grands rois. Donc il y a en gros deux traditions des Ouin, hein. Un aspect guerrier, roi, et un aspect plus prophète, religieux. Et des fois ils se mélangent, des fois on les sépare. Mais en fait, voilà, les Ouin, ce sont les Meshia, hein, les Marchia, les Messies, les Christos, étymologiquement c'est ça, hein, ceux qui sont Ouin. Alors après, dans le christianisme, ça donne l'idée de celui qui est joint, en fait. Ouin, l'huile représente aussi une liaison, hein. Donc quand on est oint, c'est quand on est uni au Père. Donc le Christ va représenter, dans la métaphysique chrétienne en fait, le deuxième logos, le deuxième principe de la Trinité, le Fils. Hein, le Père, le Fils et la Mère qui est devenue le Saint-Esprit. Mais étymologiquement, à la base, esprit c'était un mot féminin, ça voulait représenter l'aspect mère. Hein. Donc voilà, le Christ c'est l'aspect amour-sagesse, on dit, hein, Olivier, dans l'ésotérisme, et plus l'aspect amour d'ailleurs.
Oui, puisqu'on dit que le Bouddha représentait l'aspect sagesse et que le Christ l'aspect amour.
On peut parler de ses équivalents dans les religions. Peut-être avant, ça serait pas mal de parler de la différence qui est faite dans l'ésotérisme entre le Christ et Jésus. Ça peut un peu surprendre les gens de tradition chrétienne qu'on fasse cette différence.
Oui, c'est vrai que les dogmes chrétiens n'ont pas repris cette distinction entre Jésus et le Christ, hein, et ont amalgamé en fait les deux termes quelque part. Alors que les premiers chrétiens, enfin les premiers, c'était pas des chrétiens, mais ceux qui étaient autour de Jésus à l'époque, en tout cas les plus proches de Jésus, faisaient cette différence.
Ça a été débattu dans les conciles pendant quelques siècles, hein,
ouais.
Cette différence entre la nature terrestre de Jésus ou divine. Du Christ et Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est un mot composé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, en même temps, ça veut dire Jésus et le Messie, hein, le Christos, mais en même temps, Jésus est peut-être la manifestation de quelque chose de plus grand. Et donc, la distinction est faite chez les gnostiques avec l'idée que c'est parfois Jésus, l'homme charnel, qui est mort ou qui a souffert, mais que le Christ n'a pas souffert, lui. Hein, on voit cette idée, hein, sur la croix.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'histoire, les recherches archéologiques ont confirmé cette double nature, en quelque sorte, hein, puisque on a retrouvé des manuscrits sur les bords du Nil, au nord de Louxor, en Nag Hammadi, dans les années 40, et qu'on a vu là que, je crois que c'était des Esséniens, hein, c'est des écrits qui sont...
Non, pas ceux-là. Les manuscrits de la Mer Morte, c'est les manuscrits des Esséniens, mais là, c'était plutôt des gnostiques... gréco-égyptiens. Hein, donc c'était pas
les ancêtres des Coptes, quelque part.
Ils étaient liés aux Coptes, c'est vrai. D'ailleurs, ils sont écrits en Copte, hein, alors que les autres sont écrits en hébreu, les manuscrits de la Mer Morte. Donc ceux de Nag Hammadi, c'est une autre tradition. Il y a plus une tradition hellénistique. Hein, Alexandrie était vraiment le phare de cette Égypte-là, donc sous domination grecque, avant d'être sous domination romaine. Mais la tradition grecque mêlée à la tradition égyptienne était vraiment très forte. Et on trouve énormément de sagesse gréco-égyptienne dans les manuscrits de Nag Hammadi. Et on fait la différence, là, je pense à Valentin, hein, qui fait la différence très nette entre le Christos.
Donc Valentin, c'était un évêque, je crois, c'est ça, non ?
Il a été évêque et c'était un gnostique. Et donc ses livres... L'évangile de vérité se trouve dans les écrits de Nag Hammadi. Et un autre écrit qui n'en fait pas partie, mais qui est très connu de Valentin, c'est la Pistis Sophia. Hein? Donc en fait, la différence est faite. Hein,
Ils appellent Jésus le Messie transpercé, et le Christ, il l'appelle le Seigneur de justice, je crois.
Le Maître de justice. Alors maître ça, c'est dans justice. Les manuscrits de Nag Hammadi.
Ah, ça, c'est les manuscrits de la Mer Morte.
Voilà. Alors, dans les manuscrits de la Mer Morte, on pense qu'ils sont originaires du 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ, parce qu'on se disait jusqu'en 70, après 70, il ne pouvait plus y avoir d'Esséniens dans cette région, parce qu'il y a eu les Juifs ont été chassés suite à une révolte, ils ont été chassés par les Romains, il y a eu la destruction du temple en 70. Selon Benjamin Creme, un ésotériste, ces manuscrits, en fait, même s'il y a des textes anciens dedans, aurait été composé, selon lui, au deuxième siècle après Jésus-Christ, probablement dans la région de Damas, parce qu'on parle de la Nouvelle Alliance. Il est fort probable qu'une grande partie de ce groupe essénien se soit réfugié dans le haut, hein,
vers le nord, ouais.
Voilà, Liban, Syrie, et que ces textes aient été retranscrits, mais après replacés comme documents historiques. C'est la thèse de Benjamin Krem, hein, replacés présents dans les jars à Qumran. Hein. Mm-hmm. Donc en fait, si on suit cette théorie, le Messie transpercé ou transperçant, parfois on dit, alors il y a des traductions qui on dit plus maintenant mise à mort, mais qu'il met à mort. Hein. On fait des jeux de mots et parce que c'est un passage justement qui a été très très discuté. Et c'est l'idée en tout cas qu'il y a soit il y a un Messie ou il y a un être qui a souffert ou qui a fait souffrir. Moi, je pense que c'est vraiment qu'il a été mis à mort. Je pense que c'est la bonne traduction. Et tout le long, on parle d'un maître de justice qui là représenterait Maitreya.
Hein? Donc le Christ, lui.
Le Christ proprement dit et l'autre qui souffre, qui est mis à mort, qui est transpercé, qui est crucifié, qui serait le Messie. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible, dans Isaïe et ailleurs, hein, dans des passages de l'Ancien Testament, on a deux visions du Messie, hein, comme un Messie triomphant. Alors, l'orthodoxie juive l'a interprété comme un Messie purement israélite qui allait libérer Israël du joug romain.
Un guerrier, oui.
Un guerrier, mais en fait, on peut le voir plutôt comme un Christ en gloire, comme un Messie qui régnerait sur un monde céleste, en fait, transpersonnel, et un autre qui va vivre, qui va être crucifié, qui va... Ça, on a vraiment des passages très très nets.
Voilà, hein. Dans la Bible, il y avait en quelque sorte comme s'il y avait deux messies attendus, on pourrait presque croire.
Voilà, on a cru qu'il y avait deux messies attendus, c'est quelque chose qui est encore d'ailleurs d'actualité pour beaucoup de juifs, je pense, cette idée des deux messies d'Aaron ou de Joseph attendus. Et alors que d'un point de vue ésotérique, on peut en tout cas comprendre ça comme l'idée qu'il y a... un être transcendantal ou un maître de sagesse, nous, on va dire, dans notre jargon, qui est déjà uni, qui est déjà un messie, qui est déjà uni à Dieu le Père, et un être, un initié, en la personne de Jésus, qui va vivre ses expériences humaines, son expérience initiatique sur terre jusqu'à la crucifixion.
Et donc c'est le Christ qui aurait conféré à Jésus certains pouvoirs que même un initié probablement ne peut pas avoir. Hein, si on dit que Jésus a guéri Lazare, ça peut, on peut peut-être se dire que c'est le Christ qui a guéri, qui a ressuscité même Lazare, hein, à travers Jésus.
Bien sûr, il y a des passages dans la Bible où on a l'impression qu'on parle de frémissement, on a l'impression qu'à certains moments, Jésus est comme transcendé.
Oui, oui, les disciples racontent que lorsqu'ils vont vers Jésus pour lui annoncer la mort de Lazare, hein, je crois que c'est dans Saint Jean, il y a cette phrase qui dit qu'ils ont observé que Jésus tressaillait en son être.
Voilà.
Alors on pourrait penser qu'à ce moment-là, c'est ce passage de Jésus au Christ dans le corps de Jésus, évidemment, le Christ travaillant dans le corps de Jésus, qui a été observé par les disciples.
Tout à fait. Il y a dans la gnose chrétienne l'idée que le baptême, en fait, de Jésus est synonyme d'adombrement. C'est-à-dire quand la colombe descend sur Jésus, c'est l'idée que le Saint-Esprit, ici c'est en fait, c'est représenté donc par le Christ lui-même qui descend à travers Jésus du baptême, et ça va être jusqu'à la crucifixion et après la mort de Jésus, jusqu'à la résurrection, on pense que c'est le Christ lui-même qui ressuscite le corps mort de Jésus et en fait un corps immortel, un corps incorruptible, un corps spirituel en fait.
Qui pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi les disciples ne le reconnaissaient pas, tellement l'énergie qui en émanait devait être différente, même si c'était le même corps.
Un corps qui n'est plus blessé, mais qui est complètement régénéré. Hein. Donc on a la démonstration de l'état de maître, hein, un corps ressuscité, hein, c'est ça, les maîtres sont des ressuscités. Tous,
les maîtres, hein, de sagesse, oui.
Voilà, des immortels. Alors, cette idée de donc ce maître, si on associe le Christ à un maître de sagesse, donc déjà maître à l'époque de Jésus, hein, on peut lui trouver des équivalences dans les autres traditions. On va dire que c'est le nouveau Bouddha Maitreya, celui qui est attendu. D'ailleurs, Maitreya, la racine Maitri est souvent traduite par bonté, bienveillance. Donc on voit qu'on est sur l'aspect amour.
Je voulais juste préciser, David, que quand tu dis maître Ya, c'est en un mot, hein, c'est un nom, hein, c'est pas,
oui, oui.
C'est pas,
c'est pas maître Ya, ça n'a rien à voir avec le français, hein. C'est la racine Mitra, l'ami, qui donne Maitri, l'amitié, qui après par voie de dérivée se donne la notion de bonté, bienveillance. On parle aussi de joie souvent associé à cette ce mot. Benjamin Creme le traduit comme ça, maître Ya, celui qui apporte la joie.
Mm-hmm.
C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir, hein. C'est le bien-aimé en quelque sorte. Donc Maitreya est attendu par les bouddhistes. Alors bien sûr, les juifs attendent toujours leur messie. Certains chrétiens attendent le deuxième avènement, la parousie, hein, le deuxième retour du Christ, en des termes d'ailleurs assez différents. Et pour les musulmans, c'est l'imam Mahdi. Mais d'un point de vue, et pardon, j'avais oublié pour les hindous, on attend l'avatar Kalki, celui qui est venu après Krishna et après Bouddha.
Mm-hmm.
Kalki, ça veut dire accomplissement, celui qui arrive à la fin de l'âge sombre. Pour l'ésotériste, bien sûr, le Kalki, l'imam Mahdi, le Messie, le Christ Maitreya, c'est une seule individualité, exprimée différemment selon
les différentes traditions.
Mm-hmm. Et c'est celui qu'on appelle le maître des maîtres, qui est le maître, en fait, l'instructeur mondial, on dit aussi, hein, world teacher, un terme difficilement traduisible, en fait, hein. Le maître des maîtres, celui qui est à la tête du groupe des maîtres de sagesse depuis l'époque de Jésus, donc depuis toute l'ère, depuis l'ère des poissons et toute l'ère des poissons, y compris l'ère de maintenant, dans laquelle on est entré depuis quelques siècles, l'ère du Verseau, qui va durer environ 2000 ans. C'est le maître des maîtres. Alors, voilà, c'est une vision un petit peu particulière, on peut...
David, on parle aussi du Christ avec un lien avec la conscience.
Donc là, tu fais allusion.
On parle du principe christique, voilà. Est-ce que tu peux dire un peu quelque chose là-dessus?
Bien, si on fait la différence, on peut vraiment différencier, comme on avait vu quand on avait étudié le Bouddha, à plusieurs niveaux, hein, plusieurs corps ou plusieurs niveaux. Il faudrait faire plusieurs niveaux pour le Christ. Il faudrait voir donc le Christ historique, Jésus. Donc Jésus, ça c'est l'être humain qui va être inspiré par le Christ, hein, qui va devenir Jésus-Christ. On peut voir le Christ en tant que maître de sagesse, alors qui est attendu sous différents noms, hein, Maitreya, on a
donc
vu.
Donc membre d'un cinquième règne de la nature.
Voilà.
Un bodhisattva, diraient les bouddhistes.
Voilà, le grand bodhisattva. Et on peut voir aussi le Christ, on a vu, comme quelque chose de transcendantal, comme la deuxième personne de la Trinité. Hein? C'est-à-dire présent non seulement au niveau de la planète, mais au niveau du système solaire, de la galaxie, de l'univers lui-même. Cette deuxième personne, donc le verbe, proprement dit, est souvent associé au verbe tout court, au logos. Ce deuxième aspect...
Donc l'aspect amour.
Amour-sagesse. Hein, se manifesterait en tant que principe christique partout. Dans l'univers, d'un point de vue universel. Et là, on dit que ce principe donc, d'amour-sagesse, si on ne fait pas la différence avec l'aspect bouddhique, hein, ce principe christique serait le principe évolutionnaire. Parce que ça serait le principe de la conscience. C'est ce qui tirerait, comme un aimant, hein, c'est ce qui attirerait, ça serait la force d'attraction, la force d'évolution qui agirait dans tous les règnes. Et là, on est vraiment dans une dimension qui est complètement archétypale, transcendantale. Hein. On est sur donc l'aspect de Christ cosmique. On a parlé de Christ cosmique. Comme si le Christ Maitreya sur la planète et la personne de Jésus dans l'histoire avait en quelque sorte représenté, incarné cette énergie-là. Mais ce principe évolutionnaire, ce serait donc le principe de la conscience qui se développe de plus en plus dans chacun des règnes. Et c'est la conscience qui nous fait évoluer parce que c'est elle qui nous fait sortir de la matière pour aller vers le pôle esprit.
Mmh. Donc on pourrait dire qu'en tant qu'être, c'est l'incarnation de cette énergie-là?
Alors au niveau de la hiérarchie, oui, on a un être.
Donc quand tu parles de hiérarchie, tu parles de la hiérarchie des maîtres de sagesse, voilà. Hein, je précise.
Ouais. Voilà, au niveau du cœur de la planète, pour faire image, hein, au niveau donc du groupe des maîtres de sagesse, il y a un immortel, un être qui représente cette énergie spécifique de Christ. C'est le Christ planétaire en quelque sorte. Et il y a un Christ historique, c'est le Jésus que l'on a connu, qui a servi de véhicule. Il n'est pas lui-même un Christ Jésus, mais il a servi de véhicule pour le Christ durant au début du cycle de l'ère des poissons. Mais dans l'ésotérisme, on dit que ce même être, donc on va l'appeler Christ en Occident, mais il est appelé Vishnu en Orient. Et Vishnu, ça représente, c'est ce qui demeure, c'est ce qui est présent partout, c'est un peu l'immanent, et ça représente le principe christique. Et les hindous vont dire que bah, lui, Vishnu, appelez-le Christ si vous voulez, mais nous, hindous, on va dire que Vishnu, il est venu à travers Krishna. Krishna, c'est un seigneur de l'amour aussi. Il a d'ailleurs une vie très très semblable à celle de Jésus, et son enseignement aussi est très très semblable. Donc on va dire que Maitreya, ou le Christ, est venu à travers Krishna, à travers Jésus. On dit aussi dans l'ésotérisme qu'il est venu à travers un autre grand sage, Shankaracharya, à travers un grand saint mystique en Inde qui s'appelle Chaitanya. Et plus proche de nous, il est venu à travers Krishnamurti. Donc l'enseignement de Krishnamurti, Olivier, tu peux dire quelques mots
Donc Krishnamurti, oui, un sage de l'Inde qui a enseigné en Occident au début du XXe siècle, enfin, jusque dans les années 80, je crois.
86, il est mort. Mm. Et dans ses écrits, il dit lui-même qu'il n'a jamais nié être ou représenter l'instructeur mondial, et il parle de Maitreya, et il dit qu'il le sert dans certaines de ses lettres. Il connaissait très bien, il était très bien placé pour connaître Maitreya. Il parlait, lui, du processus, de l'adombrement, du moment où il était investi de cette présence sacrée que les gens pouvaient sentir quand Krishnamurti était adombré, hein, c'est le terme technique, adombré par la présence de Maitreya. Et on trouve donc il nomme vraiment sans aucune ambiguïté ce maître. Il connaissait, il savait que qu'il était adombré et que Maitreya représentait son grand gourou, son grand maître. Hein, ça, c'était...
Même relation entre Maitreya et Krishnamurti, enfin de même type que entre le Christ et Jésus. Donc.
Oui, d'ailleurs, lui-même disait qu'il s'intéressait beaucoup à cette relation, il s'intéressait beaucoup à ce que Jésus avait vécu. Je l'ai lu, ça, hein, de sa plume. Hein. Et en plus, on pourrait dire donc même relation entre le Vishnu, alors le Christ Maitreya, qui a donc Krishna. Mm. Voilà, donc c'est une relation très ancienne. Donc Maitreya, et on dit aussi qu'il est venu à travers celui qui a promulgué la foi Baha'i, Baha'u'llah.
Oui.
Et son enseignement est très universel et touche à plein d'aspects de l'enseignement de Maitreya, du Christ. Donc, pour résumer d'un point de vue ésotérique, le Christ, Maitreya, l'Imamadi, l'Avatar Kalki, etc., c'est un même être qui est attendu sous des noms différents. Mais il est venu dans le passé à travers plusieurs grands instructeurs. Et alors, il est souvent attendu pour la fin, on dit la fin des temps, mais c'est une très mauvaise traduction du terme grec qui veut dire « sun teleia tu aionos », ça veut dire jusqu'à la fin de l'âge. Et c'était en fait l'ère des poissons dont il était question. Et selon beaucoup de grands sages, le Kali Yuga a pris fin en 1994. Donc on est à la fin de cet âge sombre. On en vit encore les effets, mais l'idée que ce grand avatar puisse être présent dans le monde n'est pas du tout en contradiction avec les enseignements. Thank you.
Allez, lettre H maintenant. H, H, hiérarchie. Alors, c'est étonnant, ça, hiérarchie, dans un dictionnaire de sagesse ancienne. Ça fait un peu jargon du 19e siècle, je trouve, hiérarchie. Ça évoque l'idée qu'il y a des différences, en fait, des différences de niveau. Et alors, en fait, si on regarde, c'est des différences de niveau de conscience. Des différences de...
Différences de nature aussi. Ce qui est à l'intérieur, par exemple, là, on va parler de la hiérarchie spirituelle des maîtres de sagesse, hein. Le groupe des maîtres, donc des immortels, des grands sages. Ici, il y a une hiérarchie parce que certes, ils sont au-dessus du règne humain. Au-dessus du règne humain et en dessous du règne qu'on a appelé le règne de Shambhala, hein, le règne des Kumaras, etc. Donc oui, ça forme une hiérarchie supérieure, mais à l'intérieur d'eux, c'est hiérarchisé aussi parce qu'il y a des niveaux différents entre les maîtres et il y a aussi des fonctions, des natures différentes. Donc c'est hiérarchisé. Il ne faut pas seulement voir la hiérarchie d'un point de vue vertical, mais aussi d'un point de vue, je dirais, horizontal. C'est-à-dire il y a des fonctions.
Mmh, chacun son boulot, quoi.
Voilà, il y a une hiérarchie de fonctions. Mmh. Donc peut-être que tu peux nous redéfinir, Olivier, ce qu'on entend par maître de sagesse, pour qu'on sache vraiment de quoi l'on parle.
Eh ben, maître de sagesse, c'est un être qui appartient à un règne supérieur de la nature, donc qui appartiendrait à un cinquième règne de la nature, et une façon de dire... Et puis on peut voir aussi que chaque être humain deviendra, alors est-ce qu'il faut dire chaque être humain ou chaque âme humaine, chaque entité humaine deviendra maître de sagesse à l'issue de son évolution dans l'incarnation, c'est-à-dire que lorsque l'âme, si on veut dire ce mot-là, s'incarne, se réincarne, et elle apprend, les bouddhistes disent que lorsqu'elle a terminé d'apprendre tout ce que l'école Terre a enseigné, eh bien, elle n'a plus nécessité de se réincarner. Elle devient parfaite du point de vue humain. En tout cas, c'est un être humain parfait. Et cet être n'a plus l'obligation de se réincarner. Il peut choisir de le faire, mais c'est plus une obligation. Il est libre de son karma. Il est libre de cette force qui nous contraint de nous incarner, nous réincarner.
Donc, si on suit la logique... Un minéral est destiné à devenir un végétal, et il le devient. Un végétal est amené à devenir un animal un être humain. Donc logiquement, un être humain est destiné, peu importe le temps, l'échelle de temps, est destiné à devenir un maître de sagesse. Mmh. Et l'évolution continue, donc il y a une hiérarchie évolutive aussi.
Mmh. Et le maître de sagesse dispose donc de ce que nous on appelle des pouvoirs, mais qu'on pourrait appeler des capacités, hein,
les potentiels
de leur point de vue. Et par exemple, ce sont des êtres qui ont vaincu la mort, hein, donc c'est pour ça qu'on les appelle les immortels en Chine. Ils ont la maîtrise de la matière, ce qui veut dire qu'ils peuvent, par la force de leur pensée, créer un objet, par exemple, ou créer un corps même, hein, apparaître. Ils peuvent apparaître en se créant un corps qu'on puisse voir et même toucher.
Donc on a des phénomènes analogues ou en germe chez les grands saints. Hein, de lévitation, d'apparition de choses, de stigmates parfois, donc de manifestations même physiques dans le corps, de bilocation chez certains saints, etc. En Occident et encore plus en Orient, hein, on a des grands yogis.
Mais chez les maîtres,
C'est des pleins pouvoirs.
Voilà, c'est complètement contrôlé.
Alors, donc il y a une hiérarchie, il y a un groupement. Ces maîtres de sagesse sont groupés. Alors, dans l'enseignement ésotérique, vous trouverez, dans les enseignements d'Alice Bailey notamment, c'est là qu'on trouve le plus de renseignements sur les maîtres de sagesse. On sait qu'il y en a 63. À leur tête, dans ce grand cycle, et depuis l'ère des poissons, se trouve Maitreya à leur tête. Et après, ils sont donc classés en 7 groupes, en fait. Maitreya est lui-même sur un rayon. Le deuxième rayon, on a vu, d'amour-sagesse. Donc les maîtres peuvent être classés comme ça, ça fait comme 7 fois 9, 63. Il y aura 9 grands maîtres dans chaque groupement des 7 hiérarchies. Et donc chaque maître va représenter et hiérarchiser appartient à un groupe de rayons en fait. Les rayons, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies qui, dans la vie humaine, sont responsables, sont à l'origine d'un champ d'influence, d'un domaine, d'un secteur. Il y a un rayon qui va être à l'origine de la politique, le premier rayon. Le deuxième rayon, on trouve beaucoup tout ce qui a trait à l'éducation. Le troisième rayon, beaucoup l'économie. Quatrième rayon, l'art. Cinquième rayon, beaucoup la science. Sixième rayon, les religions. Septième rayon, tout ce qui est administration sociale. Ou alors industrie. Enfin voilà, on trouve plusieurs secteurs comme ça. Et les maîtres inspirent tout ce qui se trouve, travaille tout ce qui se trouve le long de leur ligne d'énergie, en fait, hein, de leur rayon.
Donc ils ont donc cette pour résumer donc cette hiérarchie, et c'est une hiérarchie de conscience quelque part, mais aussi une hiérarchie d'organisation du travail,
de fonction,
voilà.
Voilà, tout à fait.
Chacun responsable de certains domaines en fonction de sa nature propre. Donc si on parle en termes énergétiques, c'est en fonction de ses rayons, on pourrait dire.
Et ces maîtres ont parfois des incarnations connues, mais parfois des incarnations qui sont pas du tout connues publiquement. Et on n'a pas idée que un grand compositeur peut, dans ses vies suivantes, donc il est déjà un grand initié, comme Mozart par exemple, qui a marqué sa culture, on peut pas imaginer forcément d'emblée qu'il va devenir un maître de sagesse, ou comme un grand politicien, un grand économiste, un scientifique. Mais au fur et à mesure, c'est tout de même ce qui se passe selon l'enseignement ésotérique. Les grands êtres, les grands initiés, hein, ceux qui sont à mi-chemin entre l'état humain et l'état divin, c'est ça un initié, hein, finissent par devenir des maîtres de sagesse, et certains restent et font partie de ce 63 maîtres qui reste toujours un nombre standard, un nombre stable, je dirais. Hein.
Ce qui veut dire que les autres vont ailleurs, en fait, hein, poursuivre leur évolution en tant que maîtres de sagesse, mais sur d'autres planètes.
Voilà. En tout cas, au moins dans des plans supérieurs d'évolution. Et dans l'ésotérisme, il est aussi question de hiérarchie qui travaille pas seulement en lien avec l'humanité, mais en lien avec les autres règnes de la nature. Donc il y a des maîtres qui sont spécialisés dans l'évolution des formes animales, végétales, minérales. Et il y a un autre groupe de maîtres assez particulier qui travaille avec l'évolution qu'on appelle des devas, l'évolution des anges. Donc il y a une hiérarchie de maîtres.
Il y a des hiérarchies parallèles aussi.
Tu penses à quoi, Olivier ?
Eh bien, aux évolutions parallèles, qui sont aussi hiérarchiques, non ?
Ben c'est en fait ce que je disais, hein, c'est-à-dire l'évolution des devas, c'est une évolution parallèle, et il y a des maîtres qui sont chargés de faire évoluer ces petites entités qui vont être responsables de tout ce qui est créé dans la nature, et même nos corps eux-mêmes sont créés par ces petites particules qu'on appelait des génies, des lutins, des gnomes, des salamandres, ils ont différents noms selon les traditions, mais ce sont vraiment des entités qui vont finir par obtenir la soi-conscience, hein, qui vont après devenir des grands anges, des grands archanges, mais avant ça, ils sont eux-mêmes aidés par des grands anges, mais aussi par des maîtres. Les maîtres et les anges coopèrent. Ils sont même confondus dans la Bible, on met ange à toutes les sauces, mais en fait, on voit bien que de temps en temps, et même souvent, il est question en fait, de maîtres de sagesse. Hein.
Donc il y a une hiérarchie aussi dans cette évolution-là des devas. Il y a des devas supérieurs, des devas inférieurs, on pourrait dire.
Oui, tout à fait. Il y en a qui sont en dessous du règne humain, et certains qui sont au-dessus. Et donc il y a des maîtres qui participent à cette forme d'évolution-là, et des maîtres qui participent à l'évolution des règnes subhumains, et des maîtres qui coopèrent directement et qui participent à l'évolution humaine. Donc on voit bien que tout est hiérarchisé, même au niveau de la planète, et c'est peut-être une définition de l'occultisme, hein. C'est ce qui étudie le monde des causes, le monde caché. Donc c'est normal qu'on étudie les différents groupements d'êtres, les hiérarchies d'êtres et les êtres qui supervisent ces différentes évolutions.
Alors ce qu'on appelle là cette hiérarchie spirituelle des maîtres de sagesse, il y a d'autres noms, hein, d'autres traditions. On parle quelquefois de la grande fraternité blanche, ou de la loge blanche, des choses comme ça.
Oui, de la communion des saints. Parfois dans la Bible, quand il est question de la communion des saints, ou du royaume des cieux dans le Nouveau Testament. Hein. Le royaume des cieux, ça fait tout simplement allusion à la hiérarchie spirituelle. Hein. Il y a différentes expressions comme ça, assez vagues, mais qui représentent ce monde-là. On peut dire que les grands yogis, les grands êtres réalisés, donc tu disais les immortels, les Xianren, en Chine, tous ces groupements représentent en fait ce dont on parle, hein. Des hommes, des femmes qui se sont réalisés entièrement spirituellement, qui sont devenus des êtres éthérés, mais qui peuvent, comme tu le disais, se matérialiser physiquement, venir aider, sauver. On a ça par exemple dans les textes chinois, hein. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils sauvent, ils aident, souvent ils instruisent l'humanité, même depuis les âges les plus reculés, ils sont présents dans toutes les mythologies du monde entier. On parle, c'est un peu les dieux en quelque sorte de la mythologie grecque, hein. Et les héros pourraient représenter en fait les initiés, ceux qui sont à moitié dieux, on dit, une part divine et une part humaine. Hein. Donc les initiés, ce sont ceux qui sont à mi-chemin, il y a des stades comme ça.
Qui font partie quand même du règne humain.
qui font partie du règne humain, mais qui commencent aussi à faire partie de ce monde. Ils sont à cheval, en transition entre les deux règnes. Hein. On saute pas, bien sûr, d'un monde à un autre comme cela. Il y a forcément l'évolution. Alors, tu voulais aussi parler du plan, Olivier.
Oui, j'imagine que c'est cette hiérarchie. Donc, on a vu que chacun travaille en fonction de sa nature, mais travaille à quoi, justement? Alors, on parle d'un plan d'évolution pour la planète. On dit que le Logos, qui est l'être qui s'incarne dans la planète Terre, a son but, a ses desseins, et que la hiérarchie des maîtres de sagesse s'occupe de essayer de mettre en œuvre ses plans, et par l'intermédiaire aussi de l'humanité.
Voilà, donc on pourrait dire, par rapport au dessein de la planète, hein, le plan serait une forme d'actualisation périodique, une mise en pratique périodique, justement un plan pour qu'une partie du dessin se manifeste. Il est élaboré sur une ère zodiacale, hein, grosso modo, et on dit dans l'ésotérisme que c'est revu tous les 100 ans, autour de l'an 25, 1925, là, 2025.
Les maîtres, à ce moment-là, se réunissent en congrès, quelque part.
Voilà, en conclave, en lien avec Shambhala, ce monde des grands êtres, et de nouveau, une partie du plan est élaborée pour les 100 ans à venir.
Et ça, on connaît quelques aspects pratiques de ce plan ?
On sait que le retour des maîtres de sagesse dans le monde moderne fait partie du plan actuel, du plan d'évolution. Et c'est vrai qu'on s'approche de 2025, il est très probable qu'on connaisse les maîtres de sagesse, Maitreya, les maîtres de sagesse à cette période. Et à ce moment-là, on rentrerait dans une nouvelle phase du plan de coopération active consciente pour transformer le monde. Dans les 100 prochaines années, on peut imaginer que le monde va radicalement changer vu les enjeux qui sont les nôtres. Donc oui, on rentrerait dans une phase très importante.
Ça, c'est une phase du plan. Alors ça rappelle le titre de ce livre d'Alice Bellet, justement, en rapport avec notre mot, la hiérarchie, qui est le livre Extériorisation de la hiérarchie.
Voilà, le retour du Christ aussi, et le livre de Benjamin Creme, pour ceux que ça intéresse, La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse.
Qui fait partie, donc, c'est un aspect du plan du Logos pour la planète. Hein.
Voilà. D'un point de vue ésotérique, le nouvel âge, c'est vraiment ça. C'est pas les mouvements New Age, de médium et autres, c'est le nouveau plan, la nouvelle phase, où depuis très longtemps, les maîtres retirés du monde vont pouvoir de nouveau, on va pouvoir coopérer consciemment avec ces grands sages.
Et donc, quelque part, prendre notre place de façon plus consciente dans cette hiérarchie.
En quelque sorte, l'humanité va vraiment être consciente, et ça va faire sûrement partie de la culture, alors ça va mettre du temps, mais ça va faire partie de la culture, que l'humanité est reliée, peut coopérer en conscience avec ces grands êtres. Et nous dit Benjamin Creme, ils seront connus, médiatisés, et au fur et à mesure, ça rentrera vraiment dans notre culture mondiale.
Une conscience collective.
Voilà, merci Olivier, merci à tous.
Merci David, et au mois prochain.